Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte.
Après avoir vérifié qu'ils ne laissaient pas d'indices derrière eux, les Cerbères ont fait appel au service de nettoyage du prince, de simples mortels qui travaillent au service de la Camarilla locale, nettoyant les traces de meurtre ou de brèche de la mascarade que leur indique Claudine. Hélène, Christopher, Anna et Lizzie sont de retour à leur refuge, mais leur chauffeur attend toujours en bas. Il a reçu l'ordre de les mener auprès du prince pour faire leur rapport aux côtés du shérif une fois l'étude de la vitaille récoltée terminée. Pour ce faire, la Trébérée de la Coterie dispose de deux approches. La première consiste simplement à goûter le sang en question pour en extirper les subtilités, un peu comme un œnologue le ferait pour du vin. C'est rapide et ça ne nécessite qu'un effort modéré, mais la quantité d'information est moindre que si elle utilise le rituel de chemin de sang. Cette option implique de placer le sang dans une coupe en argent, d'y mêler un peu du sien, puis de répéter pendant une heure une incantation thaumaturgique.
Lydie, si tu veux, je peux te laisser tranquille, je sais que la magie trémère a quelque chose de secret. Si tu estimes que tu vas faire quelque chose qui n'est pas censé être connu de tous, on peut t'attendre à l'extérieur.
Oh non, c'est quand même un rituel qui est suffisamment connu pour pas avoir ce genre de problème. C'est plutôt vous qui allez passer une heure à me regarder dire des incantations devant un calice de sang. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ce qu'il y a de plus fascinant, donc c'est à vous de voir si vous avez envie de vous joindre à moi.
Anna va sourire et va dire « Ah, de toute façon, on est bien obligé. Et puis, il n'y aura pas que nous qui attendrons. Le chauffeur en bas de la rue, lui aussi, attendra.
» C'est un rituel qui est très basique et qui est souvent utilisé à la cour quand il est nécessaire de vérifier le lignage de quelqu'un, vérifier qu'il est bien le sire ou l'infant d'une personne en particulier ou ce genre de choses, ou pour découvrir le sire d'un infant illégal qui a été capturé ou ce genre de choses. C'est assez courant.
Ok. Je vais chercher mes ustensiles. Je cherche un mot plus approprié. Et je m'installe. Donc j'invite les autres à soit rester, soit l'évacuer à leurs propres occupations. Donc qu'est-ce que vous choisissez de faire
Me poser un peu, je pense, moi. La nuit a été compliquée. Si on doit passer devant le prince, je préfère être frais.
Je pense que je vais faire pareil.
D'autant que le prince attend visiblement votre rapport. Et ça sera pas forcément que sur cette soirée.
Eh ben, il va en entendre des choses. Anna va également se poser. Je pense qu'elle va étudier des partitions tranquillement.
Hélène, pareil, elle va se mettre dans un coin sans rien faire de plus que d'attendre, en réfléchissant un peu sur toute la situation.
Donc l'experte occulte se met à l'œuvre. Elle utilise d'abord le goût du sang quand même avant de tenter le rituel plus long.
Oui, je goûte le sang. Ce que j'ai déjà pratiqué, ça, il suffit juste d'une goutte de sang.
Tout à fait. Tu places le sang sur ton palais et comme un œnologue presque, tu en tires un petit peu des détails, les subtilités que tu as appris à reconnaître. Ça demande un jet de résolution plus sorcellerie du sang, difficulté 3. Lydie a 3 en résolution et 3 en sorcellerie du sang. Ça lui fait 6 dés. 4 succès, c'est une réussite. Lizzie commence à se concentrer un petit peu sur cette goutte de sang qu'elle vient de placer sur son palais. Déjà, sans aucune surprise, elle constate qu'il s'agit de vitae, de sang de vampire, mais elle remarque quand même quelque chose d'assez surprenant. C'est que pour un enfant à peine étreint, la puissance, la concentration de cette vitae est supérieure à la normale, et ça semble indiquer que sa génération est plutôt basse et donc que son sire possède une génération encore plus basse. La génération, pour les vampires, c'est la distance qu'ils ont avec les fondateurs supposés de leur lignée et plus encore, a priori, le premier vampire. qui, dans certaines légendes, est le Caïn de la Bible. Le fait qu'il ait une génération suffisamment basse pour que son sang soit déjà très concentré dès son étreinte, c'est plutôt inquiétant. Ça veut dire que la personne qui l'a étreinte est probablement très ancienne, très puissante, et que toutes les personnes qui ont été étreintes lors de cette étreinte de masse possèdent probablement des capacités plus grandes que n'auraient normalement des enfants à peine entrés dans le monde des ténèbres. Il pourrait poser un problème plus grand que ce qu'il n'aurait dû.
Et est-ce que j'ai une idée d'une fourchette de génération
Pour te donner un repère, toi, tu es de la 12e génération.
L'enfant, je pense qu'il est de quelle génération, là?
Tu penses qu'il est au moins de la 9e.
Ah oui, c'est pas mal.
Donc le sire, c'est 8e.
Ce serait au moins 8e, du coup.
Ok, ok. Est-ce que j'obtiens une autre information en goûtant le sang?
Par ce biais, non.
Eh bien, je vais passer au rituel. Dans mon appartement, j'ai une pièce que j'utilise pour faire ça. Probablement la même que ma pièce d'études. Là où il y a ma bibliothèque et mon ordinateur, du coup. La salle informatique de rituel kabbalistique.
Ne pas renverser de sang sur le disque dur.
Après, à m'être assuré que j'avais pas oublié un détail en consultant un livre, je me place devant la coupe et je commence à me concentrer à réciter l'incantation. En essayant d'entrer en résonance avec le sang, en étant un petit peu angoissé, parce que justement le fait que ce soit un enfant tout juste créé, mais en même temps très puissant, j'ai un peu peur de ce que je vais trouver. Et donc je commence à incanter.
Donc t'as mélangé un petit peu de ta propre vitae dedans, et après avoir terminé de faire le mélange, tu as pu commencer tes incantations. Cette fois-ci, ça va être un jet d'intelligence plus sorcellerie du sang, avec une difficulté égale au niveau du rituel plus 1, c'est-à-dire que là, comme c'est un rituel de niveau 1, ce sera seulement difficulté 2 pour réussir. Lizzie a 4 en intelligence et 3 en sorcellerie du sang, c'est donc 7 dés face à cette difficulté de 2. Ça devrait être assez simple. 4 succès, c'est une réussite. Déjà, une des premières impressions que parvient à discerner Lizzie, c'est le nom, le véritable nom de celui dont a été extrait cette vitae. Il s'appelle Ernesto Diaz. Ensuite, alors qu'elle se concentre un petit peu sur les détails de cette filiation et sur la concentration de cette vitae, elle parvient à discerner plus directement le lignage de celle-ci. Son intuition avait été bonne avec le goût du sang, mais elle se précise d'autant plus et ses craintes sont renforcées. Car en fait, cet enfant est de 8e génération.
Donc son sire est de génération 7.
Tout à fait. Et pour le coup, en remontant un peu les fils de cette filiation, elle parvient à discerner quelques marques caractéristiques qui semblent indiquer que ce sang appartiendrait à un gangrel. Du nom de Philippe Rigaud.
Est-ce que j'obtiens d'autres informations sur les pouvoirs, par exemple, de l'un ou de l'autre?
Alors, sur les pouvoirs, tu peux discerner que Ernesto, visiblement, et là, tu peux pas remonter quand même jusqu'à son sire, Ernesto, du coup, possédait des capacités de protéisme et de force d'âme. D'ailleurs, comme tu as goûté son sang, tu as accès maintenant à ces disciplines quand tu voudras progresser.
Swag.
Protéisme, c'est pas le truc que je souhaite avoir, Hélène.
Non, j'ai déjà protéisme.
Elle l'a déjà, mais elle attend le bon niveau pour pouvoir se transformer en anaconda relou qui va se balader partout dans l'appart.
Voilà.
D'accord. Voilà.
Du coup, voilà, Lydie a quand même réussi à obtenir un certain nombre d'informations qu'elle peut partager avec le reste de sa coterie.
Oui, donc je sors du rituel. Je sais pas trop ce que je fais de la vitae une fois...
Alors, un truc que tu pourrais tout bêtement faire et qui ferait probablement plaisir aux autres, c'est faire tourner la coupe. Bon, sachant que dans la coupe, il y a de ta vitae à toi aussi, donc ça voudrait dire qu'ils auraient accès à tes pouvoirs aussi.
Ouais. Non, moi, je suis pas... Ouais, je suis... Non.
Moi, je suis déjà passé par là, écoute.
Oui, mais justement, je préfère garder ça entre nous. Du coup, non, je suis pas spécialement vite, parce qu'en plus, je sais que ça peut créer des liens de sang, etc. Du coup, je vais pas commencer à faire trop n'importe quoi avec mon sang non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais le stocker comme les autres poches de sang que j'ai. Je vais juste bien noter dessus que c'est pas juste du sang de random mortel. Et voilà, je vais le mettre dans mon frigo.
C'est le grand cru que tu mets de côté pour Nouvel An.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, bah, je vais voir les autres. Je vais les chercher là où ils se sont un peu éparpillés et je leur raconte. Eh ben, j'ai pas que des bonnes nouvelles, les enfants, là. Bon, lui, Bob Enfant, là, il s'appelle Ernesto Diaz. Mais j'ai le nom de son sire, donc ça, c'est la bonne nouvelle. J'ai bien un gangrel du nom de Philippe Rigaud.
Ah.
Par contre, accrochez-vous, Ernesto, là, est de la 8e génération. Donc son sire est de la 7e génération.
Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont puissants?
Ça veut dire qu'il est oméga puissant.
Ça veut dire que si on le croise, il nous pète la gueule.
Mais c'est parfait! On n'a plus qu'à aller faire notre rapport et hop, c'est bon. On n'a plus rien à foutre, on peut pas le faire.
Pas faux. Je suis pas sûre que même le prince puisse faire grand-chose à ce stade.
Ouais, mais ça, c'est pas mes oignons.
Ah oui, non, c'est juste pour dire qu'il faut, voilà, faut pas qu'on le croise dans une ruelle sombre, quoi. C'est tout ce que je dis.
Ah, mais en fait, c'est bien qu'on ait cette information avant de continuer. Parce qu'effectivement, on ne va pas nous demander de l'intercepter.
Ah, mais oui.
Ah, on va enfin pouvoir se reposer après ces conneries-là.
Donc, notre mission va toucher à sa fin, je pense.
Anna va sourire et va dire à Christopher, « Tu connais le principe d'APA, Christopher ?»
Oh non, mais pourquoi tu portes... Si tu nous portes la poisse,
je préfère le principe de Planck et il y a des chances qu'effectivement, de toute façon, on continue à enquêter, mais très certainement avec la condition de ne l'approcher sous aucun prétexte.
Oh, j'espère pas, franchement, ce serait con. Un mec aussi puissant, il pourra nous sentir même en planque.
Là, je suis assez d'accord, mais ce sera au prince d'en décider.
Oui, d'autant que ses pouvoirs devaient être quand même particulièrement développés.
À mon avis, le prince va devoir se, se déplacer lui-même sur ce coup-là.
Un vampire dont le sang est aussi puissant, peut-être qu'il connaît ou a des connaissances sur le mythe de Golconde.
Essaye, c'est reparti avec ton truc.
Je pense qu'on n'ira pas lui demander.
Tu veux aller lui demander gentiment?
Oui, j'allais dire, je suis pas sûre que ce soit la meilleure personne à qui taper la discute à ce sujet.
Ce n'était qu'une parole en l'air, de toute façon. Bien, eh bien, je pense qu'on peut aller voir le prince. On a quelques informations à lui transmettre.
Hein. Allons-y.
Ouais, allez, c'est parti.
Magnifique.
Du coup, vous rejoignez le véhicule qui vous attend ?
Je pense, oui.
Ok, très bien. Vous rejoignez le chauffeur qui vous attendait en bas. Vous montez à l'intérieur du van noir qui vous avait déjà trimballé un peu partout.
Avant de partir, j'aurais quand même demandé aux autres si je peux me changer. Parce que si on va voir le prince, autant y aller dans un apparat de bonne qualité. Je sais qu'Hélène s'en fout, mais...
Ah, je pense que du coup, Anna a eu le temps de le faire pendant que Lizzie faisait ses incantations... Et je pense que Anna et Christopher sont en tenue de soirée, là. Et les deux autres sont en mode schlag.
Oui.
Ah ben... Alors, Hélène est dans sa plus belle performance d'elle-même.
Alors, sans surprise, c'est dans le Loop de Chicago que le chauffeur amène les Cerbères. C'est là que se trouvent la plupart des bâtiments qui servent d'Elysium en ville. Le véhicule s'arrête devant le Fine Art Building, en face du Grand Park. Bien qu'à l'origine, il s'agissait d'un immeuble où l'on fabriquait et vendait des chariots hippomobiles, c'est devenu très vite un lieu culturel important. On trouve notamment à l'intérieur le Studebaker Theater, du nom de la société qui occupait autrefois les lieux, et cette petite salle de spectacle, reconvertie en cinéma d'auteur depuis quelques années, accueille parfois le prince et sa cour, qui en apprécient grandement les décorations de style Art Nouveau. Vous êtes rapidement conduit dans cette magnifique salle. Les murs et les balcons partagent la même teinte beige et ils sont couverts similairement d'ornements dorés. On peut voir un peu partout des motifs travaillés qui donnent plus l'impression d'appartenir à un palais moderne qu'à une salle de spectacle. Dans la salle, seuls quelques sièges sont occupés sporadiquement, alors que sur scène, un bureau en bois massif a été installé pour accueillir le prince et ses décisions. Il est impossible de manquer le prince Lodin. Enfoncé dans son fauteuil, il porte un magnifique costume gris taillé sur mesure avec une cravate aux reflets moirés. Il a tout l'air d'un jeune homme blond, à la beauté presque juvénile, mais le regard bleu d'eau qu'il pose sur la cour est du genre à glacer le sang. Il est le prince et il le fait bien comprendre. Quelques anarques sont réunis dans un coin, assis les uns à côté des autres sur une rangée du fond. Vous pouvez reconnaître Genghis et d'Adidi. Les deux sont accompagnés par un homme petit et trapu, avec une courte barbe noire mouchetée de gris et une certaine prestance malgré son costume bon marché. Et par un autre plutôt grand et maigre avec un bouc et un col roulé qui lui donne une allure de poseur que renforcent les petites lunettes de soleil rondes qu'il arbore malgré l'obscurité. Ailleurs dans la salle, il y a d'autres descendants qui sont présents, notamment l'infant du régent Tréméré se trouve au premier rang, les deux mains sur sa canne qu'il tient devant lui alors que son chapeau repose sur la place à côté de lui. Lydie a déjà croisé plus d'une fois le vieil Abraham du Sable à la fondation, car Nikolai se montre rarement et lui laisse les rênes du clan en ville. C'est un afro-américain dont le vieil âge produit un étrange contraste avec la jeunesse de son sien. Il est calme et posé, bien qu'il sache faire tonner sa voix en cas de désaccord. D'autres membres de la Camarilla sont présents dans l'audience. Christopher reconnaît Lorraine, la favorite du prince, sa dernière infante, et Brennon, le propriétaire du Succubus Club.
Du bon monde.
Ils sont assis tous les deux dans un coin. Quant à Anna, elle peut remarquer Sir, l'ancien capitaine de marine anglais qu'elle a déjà pu croiser aux soirées d'Annabelle. Il y a également un jeune homme blond et propre sur lui, qui se tient à l'écart de tout ce monde. Sur scène, Balthazar est déjà là, mais se tient encore en retrait le temps que Lodin finisse de traiter les affaires courantes, et peut-être attendant que vous arriviez. Il est accompagné de Nili, qui organise des audiences en sa qualité de sénéchal. Et face au bureau, et donc face au prince, se trouve le très familier Walter Nash, l'infâme maître des pompiers de la ville. Quand vous arrivez, la discussion est déjà en cours et semble plutôt tendue, bien qu'elle n'attire que peu l'attention des membres de la cour qui préfèrent discuter dans leur coin. Il semblerait que vous ayez un peu de temps avant qu'on ne vous fasse intervenir. Que souhaitez-vous faire ?
Anna, si personne décide de faire quoi que ce soit, va juste proposer de s'asseoir à...
Si vous voulez vous asseoir, faites-moi, je vais rester debout pour montrer que nous sommes disponibles et prêts à être reçus.
Moi, je pose mes fesses.
Hélène va se pencher vers Lydie et va lui dire « Écoute, moi, je peux pas trop y aller parce que je suis un petit peu dans le collimateur, mais tu pourrais aller voir le groupe de Genghis, savoir ce qu'ils foutent là ?»
Oui, je peux faire ça.
Merci, c'est cool, franchement. Du coup, Hélène va se mettre à côté de Christopher, debout et croisera les bras, en attendant aussi.
Je commence à faire genre, je me balade, puis... Je me dis, attends, faut que j'arrête de dire oui à tout ce que me dit Hélène sans réfléchir avant. Je retourne voir Hélène et je suis là. Attends, mais en fait, tu veux que je leur dise quoi ?
Bah, je te l'ai dit, demande-leur ce qu'ils font là.
Mais parce que quand t'as dit que t'étais le collimateur, tu parlais bien du collimateur du prince.
Ouais, ouais.
Donc si je dis que c'est toi qui es intéressé, ça va. Parce qu'en fait, ce sera plus logique que si moi, je me pointe juste en mode, ouais, pourquoi vous êtes là ?
Ouais, si tu veux... Écoute, je te fais confiance, ok ?
Faut pas me faire confiance dans les situations sociales, d'accord ?
Hélène va un petit peu pouffer de rire et dira « Ouais, mais je peux pas envoyer Christopher. »
C'est sûr.
Non, s'il vous plaît, non. Sans façon.
Bon, du coup, j'y vais.
Tu te diriges vers le petit groupe d'Anar qui se trouve tout au fond de la salle, assis tous les quatre dans une rangée. Ils sont en train de discuter ensemble, ceux qui sont aux extrémités se penchant pour écouter et faire entendre leur voix. Par contre, quand Lydie se rapproche, ils se redressent dans leur fauteuil et se taisent, attendant probablement de savoir ce qu'elle leur veut.
Bonsoir, j'espère ne pas trop vous déranger dans vos discussions.
Genghis va prendre la parole, il commence à rouler un peu des mécaniques et à dire « Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que tu nous veux ?» Et là, celui qui est barbu, un peu trapu, va étendre un bras un peu apaisant pour dire à la tête brûlée de se calmer. Et il va lui-même s'adresser à Lydie pour lui dire « Nous sommes dans l'Elysium, vous pouvez aller où bon vous semble. Si vous venez nous voir et que vous avez quelque chose à nous dire, dites-le. »
Je dois avouer que j'étais un peu curieuse et j'étais pas la seule de savoir ce que vous faisiez justement dans l'Elysium. Bien sûr, rien ne vous oblige à me le dire, mais vous êtes une présence plutôt inhabituelle, et donc j'étais intriguée.
Eh bien, même si nous contestons un certain nombre de points sur lesquels la Camarilla s'appuie pour faire fonctionner son gouvernement, nous n'en sommes pas moins des membres de cette société, et l'Elysium garantit notre sécurité. C'est sa loi. Aucun descendant ne peut être blessé ici.
Effectivement. Du coup, vous avez peur pour votre sécurité en ce moment ?
Nous sommes venus demander au prince Lodin de reconsidérer ses dernières décisions suite aux accidents qui ont eu lieu en ville. Nous n'adhérons pas à l'action violente qui a été visiblement provoquée par quelqu'un se revendiquant anarque et qui porte le doux sobriquet de Sweetie Pepper. Et nous ne voudrions pas que cela retombe sur nous et sur les membres de notre petite communauté.
C'est un soulagement pour moi que vous fassiez une telle démarche parce que je pense effectivement que vous n'avez rien à voir avec Sweetie Pepper et j'espère que le prince sera raisonnable à ce sujet parce que personne ne souhaite, enfin personne. Est-ce que Balthazar est dans le coin ? Oui, il est dans le coin.
Il est sur scène un peu derrière l'Odin en train d'attendre.
Je dis enfin en personne et je regarde dans son coin. Ne souhaite une issue malheureuse entre les anarches et la Camarilla à cause des actes considérés et même criminels de quelqu'un qui se revendique anarque.
Tout à fait, d'autant plus qu'il est venu à nos oreilles des circonstances un peu troublantes quant à ces attaques, puisqu'il paraît un peu surprenant que quelqu'un ait pu fournir à Sweetie Pepper les adresses des refuges d'enfants de Capone.
Effectivement. Je peux confirmer que tout cela est très troublant. En tout cas, je ne sais pas si on en aura l'occasion et si notre voix en tant que Cerbère a la moindre importance pour le prince, mais si c'est possible, j'essaierai de faire en sorte de soutenir votre demande.
Là, c'est celui qui porte des lunettes de soleil, l'espèce d'artiste un peu caricatural, qui prend la parole et il dit... D'autant plus que des événements troublants se sont déroulés ces derniers jours. Il se trouve que j'ai été moi-même attaqué dans mon refuge par ce qui semble être des Nosferatu. Et sans certains membres de notre communauté qui pourtant ne seront pas en odeur de sainteté à cette cour, je ne serai probablement plus de ce monde.
Vous avez été attaqué par des Nosferatu ?
Tout à fait. J'ai été fort heureusement sauvé par quatre personnes. Il s'agissait d'un Nosferatu, justement, un certain Pete, qui était accompagné d'un Gangrel, Ulysse, ainsi que d'une certaine Marcy et d'une femme assez fantasque qui s'appelait Armance. Mmh. Ils sont venus me trouver pour m'avertir du danger. Et il se trouve que ces personnes qui convoitaient mon sang, je crois, n'ont pas tardé à nous attaquer.
Ah oui, j'ai entendu parler de cette coterie. Je dois avouer que cette affaire m'inquiète et j'espère qu'elle trouvera une fin rapide et heureuse pour tout le monde et que les responsables seront mis hors d'état de nuire.
Oui, c'est ce que nous voulons aussi. Après tout, même si nous ne sommes pas d'accord sur tout et sur un certain nombre de décisions prises par le prince... Puisque c'est lui qui assume le pouvoir dans cette ville, il est normal de lui reprocher quand des choses ne se passent pas bien. Et en l'occurrence, ces attaques et ces accusations et toutes ces affaires jettent quand même un certain doute sur la stabilité de la ville.
Oui, et personne ne souhaite cela.
Tout à fait. Nous-mêmes, nous préférerions que tout se joue sur le terrain des idées. Et là, il y a Genghis qui ronchonne. Ouais, enfin, on pourrait quand même un petit peu... on peut en arriver à ce genre d'extrémité si la parole n'a pas réussi à être entendue.
Le groupe d'anarches, c'est l'union de la gauche.
C'est un peu ça, oui. Et tu ne te trompes pas, plusieurs d'entre eux étant d'anciens socialistes américains.
Donc je dis, je vous remercie pour cette discussion éclairante et comme j'ai dit, s'il y a quoi que ce soit qui est en mon pouvoir pour soutenir votre demande auprès du prince, je le ferai.
Ce serait fort charitable à vous. Nous n'avons pas vraiment l'habitude de traiter avec les gens de votre clan. Je crois bien que vous êtes une des Trémérées, c'est bien ça ? C'est le barbu qui parle à nouveau.
C'est bien ça. Et je sais qu'il n'y a pas de Trémérée anarque pour des raisons évidentes. Mais ça ne veut pas dire qu'aucun d'entre nous ne s'intéresse ou ne pourrait, en théorie, même si la pratique est compliquée, partager vos idées.
Tout à fait. Je comprends aisément la situation qui semble très complexe. Merci en tout cas d'être venu nous trouver ainsi et j'apprécie de pouvoir ainsi échanger de manière diplomatique et posée. Ce n'est pas toujours le cas. Certains ici ont... les idées assez vives et les points résonnent beaucoup plus que les mots parfois.
Oui, c'est une tendance qui existe partout, mais la société vampirique et je dirais la nature vampirique n'aide pas forcément aux discussions calmes et posées.
Ah, à qui le dites-vous ? Pour des brujas, c'est parfois un petit peu compliqué.
les réunions intraclanesques peuvent être aussi assez animées, j'imagine.
Oui, tout à fait. Nous avons l'atout et le désavantage de présenter une grande diversité d'esprits et de moyens d'action, et cela nous joue parfois des tours.
Le NPA, je connais. Pardon, faut que j'arrête avec ça. Après les avoir remerciés, je retourne vers Hélène.
Alors, tout va bien ?
Très bien, très bien. Ils m'ont pas mangé, tu vois.
Bah, je m'en doutais bien de ça, mais je veux dire, ça va, ils ont pas d'ennui.
Ils viennent ici pour demander la protection du prince.
Voilà une bonne idée.
Et du coup, je me disais justement que Christopher, vu que même si on est tous égaux, t'es quand même un peu plus égaux que nous aux yeux du prince.
Oui, ça me fait mal, mais oui.
Enfin, en fait, leur but, c'est de se distancier des actes de Sweetie Pepper et ne pas être amalgamé à lui et en être protégé. Sachant que Jean Lunette de Soleil, là-bas, il a été attaqué par des Nosferatu et sauvé par Noré sans amis. Donc, ouais, ils ont des ennuis et du coup, ils vont demander la protection du prince. Mais je dois dire que je suis pas sûr que le prince et Balthazar soient forcément très enclins. Donc, je pense que si on pouvait appuyer un peu leur demande dans un esprit de paix dans la communauté vampirique, ce serait pas mal.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il le faut aussi.
Je me doutais que tu serais d'accord avec ça. Je pense qu'on a tous, à ce niveau-là, dans la coterie, on est tous d'accord. Et voilà, ouais, sinon, ça a l'air plutôt sympa. Je me tourne vers Hélène. Je prendrai pas le risque de le dire devant Balthazar, mais ils sont plutôt sympas, tes potes anarques. Je les aime bien.
C'est pas mes potes, mais ouais, ils sont plutôt sympas.
Alors que du coup, vous êtes en train de discuter gentiment, vous entendez Nash qui s'exclame à voix haute cette fois-ci, alors que sa conversation avec le prince était jusque-là cantonnée plutôt au murmure. « Mais mon prince, on a attenté à nos vies! Demandez à Son, si vous voulez, il était là lui aussi !» Et là, vous voyez Nash qui fait alors un geste en arrière, en direction du jeune homme blond qui se tient à l'écart. À sa mention, celui-ci affiche un sourire un peu gêné et fait non de la main, comme si il préférait repousser son soutien au propos du ventrou, qui continue toujours avec autant de virulence auprès de l'Odin. Vous devez intervenir et nous devons nous charger du problème et du coupable. Nash est plutôt virulent et énergique, mais sa demande s'écrase sur la froideur calculée du prince. Je vous ai expliqué clairement ma décision. Vous avez fait le choix de vous aventurer sur le domaine de ce fou de Modius pour participer à une vente de calices clandestine. Que vous ayez été attaqué n'est pas mon problème et je ne ferai rien. Nash essaye à nouveau d'intervenir, mais il a à peine le temps d'ouvrir la bouche que Balthazar a fait un pas en avant, ce qui pousse immédiatement le ventru à ne pas en dire plus. L'Odin conclut « Si vous avez des réclamations, adressez-vous au prince » de Gary. Il sera sûrement ravi de savoir que vous bravez nos traditions sur son domaine. Maintenant déguerpissez. Audience suivante. Nash quitte alors la scène à contre-cœur, visiblement furieux.
Hélène va lui faire un grand sourire faussement innocent. Genre le pur truc de mépris bourgeois, tu vois ce que je veux dire?
Lui, il est vraiment en train de ronchonner, il est pas content, grand-papa a pas été de son côté et ça lui fait pas plaisir.
D'accord, je vois.
Vous voyez Nelly qui commence à vérifier son planning et qui se tourne vers Balthazar. Balthazar hoche la tête et pointe du doigt dans votre direction.
Bah du coup, Christopher s'avance et fait signe aux autres de suivre d'un simple geste de main.
Allez, on est parti.
Anna va s'avancer.
Nelly du coup vient vous chercher au bas de la scène et vous fait signe de monter pour vous présenter au prince.
Du coup, Christopher va monter et s'incliner respectueusement devant le prince. Mon prince.
Lydie limite en essayant de reproduire ses gestes d'un air pas très sûr d'elle.
Hélène va baisser la tête d'un air respectueux.
Anna va les imiter et va faire une révérence avec un style un peu old school. Il va dire « Mon prince, je me permets de me présenter, je suis Anna ». Infante de Louis des Tenaces.
J'allais te dire, hein, Anna a suffisamment en étiquette pour savoir qu'au prince, on se présente en citant son lignage. Et du coup, les autres ne l'ayant pas fait, il y a Nelly derrière qui chuchote « Présentez-vous, présentez-vous !»
Je suis Christopher Dodson, infant d'Alan Sovereign et membre de la coterie des Cerbères.
Toutes mes excuses, Elizabeth Evans, infante de Deschling Starbridge.
Hélène Cooper, enfant de Sana. Ah, et c'est it, il paraît.
L'Odin hoche la tête et vous le voyez qu'il refocalise son attention sur la salle pour annoncer froidement « Veuillez tous sortir, à l'exception des Cerbères. Cette audience est privée. » Et à ces mots, vous entendez quelques grommellements qui s'échappent de la bouche de certains spectateurs et lentement, la salle se vide. Il ne reste plus que L'Odin, Nelly, Balthazar et vous.
Christopher attendra quand même qu'on lui donne la parole avant de parler.
Ouais, d'ailleurs, une fois que tout le monde est parti, le prince pose son regard glacé sur vous et il dit « Je vous écoute. »
Bien, mon prince, nous avons continué donc notre enquête, comme bien sûr c'était autant notre devoir que vos ordres, et nous en sommes arrivés à la conclusion, la grande conviction que le responsable de beaucoup des ennuis qui ont affecté Chicago dernièrement se trouve être Philippe Rigaud. Un membre du sabbat aussi ancien que puissant. Il semblerait que beaucoup, beaucoup de ses actions cherchent à nous déstabiliser en passant par des tiers, comme par exemple Sweetie Pepper, à qui il a confié des informations pour qu'il puisse nous attaquer en créant une vague de mécontentement, pour être dans l'euphémisme, de notre rencontre envers les anarques. J'ai aussi, avec mes camarades, la conviction que M. Capone n'est pas de source sûre et est peut-être à l'heure actuelle sous l'influence de Philippe Rigaud.
Qu'est-ce qui vous fait supposer cela ?
Une liste de photographies trouvées sur une des scènes de crime qui semble s'intéresser de près à plusieurs des membres de la Camarilla, assez bien placés, et certains comportements de Monsieur Capone que je trouve, à défaut, disons suspects.
C'est une accusation très grave.
C'est une accusation grave, je sais, mais notre devoir est de chercher les possibles failles de mascarade, et du coup... Ce faisant, même si l'accusation n'est pas entièrement fondée, je ne peux qu'intimer la plus grande prudence concernant M. Capone.
Très bien, poursuivez. Qu'avez-vous trouvé d'autre ?
Je vais jeter un regard aux autres afin qu'ils m'assistent un petit peu.
Pas mal de ces photos montraient pas mal de gens importants des environs. C'est pas impossible qu'il utilise notamment les soirées de Nash sous différents noms pour pouvoir, charmer l'esprit d'autres personnes qui lui permettent d'avoir des actes graves envers la mascarade.
Mmh.
À la mention de Nash, très clairement, L'Odin a levé les yeux au ciel.
Genre, il m'apporte que des emmerdes, celui-là. Il semblerait que Philippe Rigaud ne fasse actuellement que passer par des moyens détournés et de la manipulation de haut niveau.
Il semble réellement extrêmement puissant. J'ai fait un rituel avec le sang d'un de ses enfants et... Je n'ai pas envie de me frotter à lui personnellement, je dois l'avouer.
Bah disons que s'il est capable, comme on le pense, de soumettre quelqu'un comme Capone, il peut en soumettre bien d'autres.
Dont nous.
Oui, ce n'est pas étonnant, la domination est un pouvoir qui fonctionne d'autant plus lorsque la cible possède une génération plus haute que celui qui la charme.
Mmh. En tout cas, mon prince, toutes les pistes semblent se recouper vers lui. Les ennuis de Monsieur Capone, les vagues de problèmes causés par Sweetie Pepper, les attaques de Nosferatu aussi.
Ah, j'ai entendu parler de ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Je vais consulter mon calepin. J'ai pas mené grand-chose. Il y a de grandes chances que ce soit aussi l'œuvre de Philippe Rigaud.
Là, L'Odin va interroger du regard Nelly qui va hocher la tête. Oui, mon prince, je vous en ai parlé. Ce sont ces gens-là qui étaient venus nous en parler alors que nous jugions l'un d'eux pour une brèche de la mascarade et un autre est venu annoncer qu'il y aurait peut-être des problèmes à ce niveau-là. Mais nous n'avons pas eu beaucoup plus d'informations à ce sujet.
C'est une coterie de gens assez étranges et intrigantes. À vrai dire, la piste des Nosferatu qui auraient attaqué certains anarques les aurait menés à une sorte d'entrepôt avec un cimetière dans lequel se trouvaient certains infantes fraîchement étreints par ce Philippe Rigaud. Nul doute que ça empestait le sabbat dans cet endroit.
Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur ce repère qui avait été installé du coup sur mon domaine ?
Je pense qu'il était très certainement utilisé pour préparer des membres ensuite à envoyer à des attaques stratégiques.
Et vous avez une idée de ces attaques ?
Non, hélas. Mais nul doute que cela va servir à soit couvrir les réels méfaits de Philippe Rico, soit chercher à déstabiliser la Camarilla. Dans tous les cas, c'est une menace pour l'ordre de Chicago.
Là, je regarde Christopher un peu de manière insistante, parce que je ne veux pas faire une gaffe si jamais c'est lui qui a choisi de ne pas en parler. Et j'attends la réaction de Christopher, du coup.
Christopher va te regarder et faire un geste en mode « prends la parole si tu veux ajouter quelque chose ».
J'ai eu une vision prophétique. J'ai vu la Prudential Tower et quelqu'un exploser une vitre et tomber d'une fenêtre de la Prudential Tower. Et cette image s'est transformée en une image de fusillade. Et donc je ne sais pas si c'est ce lieu qui est visé ou si la première image, en tout cas, quelque chose peut se passer à cet endroit.
Alors, à la mention de la Prudential Tower, l'air de l'Odin s'est un peu renfrogné. Ah oui, c'est pour cela que ma sécurité a été prévenue par le shérif et que tout le monde s'est inquiété. Mais il n'y a rien eu.
J'espère que ça va continuer comme ça.
Je pense que la vision n'était pas spécialement court terme.
Bon, ne parlons plus de cette vision.
Très bien.
Par contre, il me semble que vous aviez fait un prisonnier. Et là, son attention se tourne vers Balthazar, qui hoche la tête et fait un pas en avant. Ouais, j'ai interrogé le prisonnier que nous avons déterré. Il s'appelle Ernesto. C'est un membre de gang. Sans surprise, hein, vu le nom. Et il fait partie des Latin Kings. Ils ont été approchés par quelqu'un qui leur a montré l'étendue de ses pouvoirs et leur a promis les forces nécessaires pour écraser leurs rivaux et devenir, je cite, « les rois de la ville ».
Il y a fort à parier que Philippe Rigaud va peut-être passer par une guerre des gangs afin de semer le chaos.
Possible, oui.
Si il compte faire une guerre en manipulant les Latin Kings d'un côté et en impliquant le gang des Bloods de l'autre, soit il veut les faire s'affronter pour semer le chaos, soit il veut les allier contre nous. Dans tous les cas, il va falloir faire extrêmement attention, mon prince.
Visiblement, ça a l'air de renforcer un petit peu la grogne du prince. Il soupire. Je crois qu'ils en ont après Kevin Jackson. Kevin Jackson, c'est un des enfants de l'Odin, qui est le leader des Bloods.
Une chose m'intrigue dans cette histoire, mon prince. À vrai dire, tout dans cette histoire, des tags laissés qui semblent être dirigés à l'encontre de la Tour d'Ivoire aux attaques contre vos enfants, me font me demander quel est l'objectif de la personne derrière tout ça, si tant est que c'est ce Philippe Rigaud. Pourquoi s'attaquer aux murailles de votre domaine en laissant beaucoup d'indices aux commanditaires de l'action au lieu de tenter une attaque dirigée vers la tête et le centre de la Camarilla?
Je vais vous pardonner ce défaut de raisonnement, puisque, après tout, je crois que vous êtes avant tout violoniste, je crois.
C'est exact.
Dans un premier temps, tout a pointé du doigt vers Capone, l'un de mes hommes de main les plus importants en ville. Et nous ne sommes pas passés loin d'entrer en conflit avec lui pour ses histoires. Je crois que nous sommes face à une tentative de déstabilisation du domaine. Et il me semble que ce Philippe Rigaud a cherché à nous jeter les uns contre les autres.
Et il en a fait le même en essayant de nous mener à une guerre contre les anarches en utilisant Sweetie Pepper.
Ouais.
Peut-être bien, oui.
La plupart des anarches ont en effet l'air d'être de bonne foi et nous ne pouvons, mon prince, que vous enjoindre à écouter leurs revendications. Ils ont l'air d'être très différents de Sweetie Pepper et ne cherchent pas à avoir une guerre ouverte, a priori. Guerre qui, a priori, ne ferait que renforcer Philippe Rigaud.
Ni même une guerre tout court, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Oui, vous avez certainement raison. Il va falloir à nouveau négocier les termes de cette paix et je pense que ce sera peut-être l'occasion de les faire plier un peu plus.
Clairement, Christopher a envie de dire quelque chose, mais il se retient. Clairement, il ne dira rien, mais ça s'est vu qu'il avait envie d'ouvrir la bouche.
Ouais, pareil. Lydie a fait la même chose avec une seconde de décalage, je pense.
Là, vous voyez les sourcils de l'Odin qui se froncent. Eh bien, vous avez quelque chose à y redire ?
Mon prince, je me demandais si, au contraire, il ne fallait pas profiter de l'occasion pour effectuer le plan inverse de Philippe Rigaud en s'alliant pleinement à ceux qui l'auraient voulu nous voir ennemis. Cela ne pourrait que le desservir et nous renforcer.
Les anarches sont une épine dans mon flanc depuis des décennies et ils ont à de nombreuses reprises fait flancher ma gouvernance et je ne vois pas pourquoi je m'abaisserais à leur donner plus de crédit qu'ils n'en méritent. Nous sommes la Camarilla après tout et nous sommes ici sur un domaine que notre secte maîtrise comme presque aucune autre ville au monde. Il n'est pas question que nous nous abaissions à considérer les anarches comme des alliés. Ce sont des agitateurs, ce sont des éléments explosifs qui pourraient à tout moment causer une révolution comme ça a été le cas en Californie. Voulez-vous que je finisse comme l'ancien prince de Los Angeles, la tête au bout d'une pique ?
Bien sûr que non, mon prince. Je ne faisais qu'évoquer la possibilité d'être magnanime afin de mieux les avoir dans notre giron.
Je ne suis pas sûr que cela fonctionne, mais dans tous les cas, pour le moment, nous avons un problème plus grave. Je crains que Jackson soit en difficulté et il pourrait être nécessaire que vous alliez voir s'il nécessite un peu d'aide. Balthazar, et là il regarde son dog et le shérif avance d'un pas. Mon prince, nous pouvons tout à fait aller voir ce qu'il en est. Lodi reporte son attention sur vous et du coup vous dit « Eh bien, pouvez-vous vous charger de cela ?»«
Bien sûr, mon prince. »
Il faut s'assurer que tout va bien et, s'il le faut, repousser une potentielle attaque. Je vais pour ma part contacter la meute de loups. Il se pourrait que vous ayez besoin de leur aide.
Christopher hochera humblement la tête, l'air prêt à se retirer si l'ordre est donné.
L'Odin s'adresse maintenant à Nelly. Nelly, annonce aux autres que je me retire et que la séance est levée. J'entendrai leur jérémiade demain. L'Odin se lève, implacable, et se dirige vers les coulisses de la scène.
Bien. Du coup, Christopher va s'incliner et nous nous mettons en route, mon prince. Et descendre et se mettre en route pour la sortie.
Velen dira rien et fera pareil, les mains dans les poches. Il y a le shérif et des hommes à lui qui viennent avec nous ?
Ah oui, tout à fait, le shérif va venir avec ses hommes demain.
Par contre, elle demandera de passer à la maison pour pouvoir se changer rapido si jamais il y a de la baston. Histoire qu'elle puisse avoir des mouvements un peu plus souples.
Ah bah oui, oui, Christopher allait justement demander ça, qu'il puisse récupérer son flingue fétiche.
Une fois qu'elle sera chez elle à se changer, elle va aussi s'éclipser momentanément pour passer un petit coup de fil. Elle passera un coup de fil à son contact pour parler à Dicky, pour lui dire qu'apparemment ce soir le shérif et ses hommes seront ailleurs.
Très bien.
Aïe 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 aïe.
Et que donc si quelque chose doit être tenté, c'est une possibilité, voilà.
C'est bien vu, ouais. Alors, concrètement, là, comment vous équipez ? Est-ce que vous prenez des choses avec vous ?
Christopher, il enfile son gilet pare-balles, il prend ses armes.
Ah ouais, t'as un gilet pare-balles, toi, tu rigoles pas.
M'étonnerait qu'un ancien lieutenant de police n'avait pas un gilet pare-balles chez lui.
Oui.
Christopher, est-ce que tu aurais quelque chose pour moi ? Je dois t'avouer que je pourrais me battre, mais c'est pas vraiment un domaine dans lequel je suis le plus à mon aise.
Tu as déjà tenu une arme à feu ?
Non, jamais.
Alors tu serais plus dangereuse avec dans les mains à risquer de toucher des alliés ?
À vrai dire, je préfère me battre avec un couteau.
Ah, bah ça j'en ai, même si j'imagine qu'Hélène en a aussi.
Ils sont tous légaux.
Tiens, couteau de combat.
Au niveau de l'habillement, je vais pas me présenter avec cette robe, il me faudra quelque chose aussi.
Je pense que pour ça, c'est pas impossible que les hommes de main de Balthazar, ces espèces de ghouls services spéciaux, aient dans une de leurs camionnettes des valises avec des armes, des gilets pare-balles, ce genre de trucs.
Oh, s'il y a un fusil d'assaut, Christopher y prend.
Un fusil d'assaut ? Non, non, Hélène, elle y va à la bagarre. Elle va y aller avec ses armes bestiales. Par contre, elle prendrait une tenue qui est pas chiante, genre un jean avec une ceinture bien serrée, un t-shirt rentré dedans, et elle va nouer ses dreads, histoire qu'il l'emmerde pas pendant la bataille. Elle va aussi mettre des graviers ou du sable dans ses poches et prendre un couteau certainement à l'arrière de son jean.
C'est quoi le coup du gravier dans les poches?
Bah pour balancer dans les yeux.
C'est pour le balancer à la gueule.
D'accord. Ouais, c'est vraiment les bagarres de cours de prison.
Franchement,
quoi.
Une bonne poignée de poussière dans la gorge.
Je pense qu'effectivement, là, vous pouvez vous équiper un petit peu. À mon avis, c'est plus Lizzy qui doit être un peu dans le stress, là.
Oui.
Parce que très clairement, elle n'a aucune idée de comment se battre. Elle n'a aucune formation à ce sujet.
Ouais, du coup, là, ce que je vais faire, c'est donc dire oui. Alors, moi, disons que la bagarre, c'est pas ma grande spécialité. Je vous avoue que je suis pas sereine.
Si attaque il y a, ça sera toujours bien d'avoir des yeux qui pourront nous dire ce qui se passe autour de nous ou en arrière.
J'allais justement dire que oui, je peux sentir l'invisible. Donc s'il y a des choses magiques qui se préparent, ça, je peux vous être utile là-dessus. Et je pourrais aussi peut-être, si on en arrive là, utiliser contre notre cher vampire ancien un pouvoir qui me permette d'augmenter sa soif, ce qui peut le rendre moins calculateur.
J'ai une remarque, on est d'accord que ce Philippe Rigaud est un maître dans l'art de dominer autrui. Est-ce qu'on a une réponse si jamais il tente de nous dominer?
Bah, la dernière fois que quelqu'un a tenté sur moi, en tout cas, il a fort bien réussi, donc je ne suis pas sereine non plus.
Le plus simple, c'est que vous ne regardiez pas dans les yeux.
C'est bon à savoir.
Je pourrais prendre le risque de le regarder dans les yeux si je peux l'immobiliser.
J'essaierai, mais je ne peux rien promettre.
Hélène, dans la voiture, va juste passer son bras autour des hanches de Lizzie. Eh, ça va aller, d'accord?
Lizzie va hocher la tête d'un air quand même moyennement convaincu, mais va quand même en profiter pour se réfugier dans les bras d'Hélène.
Le véhicule qui vous emmène se dirige vers Cabrini Green. C'est un quartier de Chicago qui est très proche du centre-ville, mais qui est probablement l'un de ceux où la criminalité est la plus présente. Il tient son nom d'un plan de logements sociaux qui a fait s'ériger des maisons puis des immeubles un peu partout dans le quartier. Séparés par de grandes étendues d'herbe peu entretenues, les blocs se succèdent, empruntant des formes différentes selon les périodes auxquelles chaque groupe d'immeubles a été bâti. C'est donc le domaine de Kevin Jackson, l'un des plus jeunes enfants de Lodin. Quand vous arrivez dans le quartier, vous remarquez tout de suite que quelque chose ne va pas, puisque tout l'éclairage public est éteint, et qu'il semble qu'il y ait une panne massive d'électricité dans tout le bloc.
Comme c'est étrange.
Est-ce que le shérif est avec nous?
Alors, le shérif, lui, est dans un autre véhicule, mais du coup, vous êtes tous les quatre avec un conducteur, et il y a un autre van similaire à celui que vous empruntez, qui contient le shérif avec d'autres ghouls à son service.